Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Situation sécuritaire dégradante dans la chefferie de Bouito, Nord Kivu. Les FARDC affrontent depuis trois jours le M23. Ces rebelles auraient occupé entièrement Nyanzale depuis hier soir. Du coup, les populations ont fui vers les villages environnants. Contentieux des résultats des législatives provinciales de Kinshasa, la cour d'appel de Kinshasa-Matete a entamé hier l'instruction de 90 dossiers dont elle a été saisie. Hier, elle a statué sur 7 dossiers qu'elle a pris en délibéré concernant les communes de Lemba et Kimbanseke. Et puis, la politique de tolérance zéro contre les auteurs des violences sexuelles est déjà d'application au sein des FARDC. Déclaration hier à Lubumbashi du secrétaire général de la commission de lutte contre les violences sexuelles au sein de l'armée, le général Jean-Daniel Batambiko est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu. La situation sécuritaire se dégrade de plus en plus dans la chefferie de Bouito, territoire de Rutshuru, où l'armée congolaise affronte depuis trois jours les rebelles du M23. Plusieurs sources indiquent que les rebelles auraient avancé tard dans la soirée hier mardi jusqu'à occuper entièrement l'agglomération de Nyanzale. Du coup, le mouvement des populations s'intensifie dans plusieurs autres villages environnants. Bernardin Nyangi nous en dit plus.
C'est entre 17h et 20h locales que les affrontements ont repris avec une forte intensité dans l'agglomération de Nyanzale ainsi que le village de Kirima, environ 8 km de Kibirizi. Du coup, une partie des habitants qui résistaient encore à Nyanzale ont vidé le lieu avant l'avancée quelques temps après des rebelles vers le centre de cette entité dont ils occupaient la partie sud depuis lundi. Dans la partie nord du même groupement de Mutanda, chefferie de Bouito, certaines sources confirment l'occupation du village Kirima par le M23 cette nuit. Une avancée rebelle qui occasionne, depuis 20h locales hier, le mouvement des milliers d'habitants, notamment de Kirima, ainsi que ses environs, dont Somikivu, Bualanda, Kibingu, Kibirizi. Ceux-ci prennent la direction nord vers Kanyabayonga. Les autres vont vers la Rwindi, Vichumbi au lac Édouard, ainsi que vers Ikobo, dans le territoire voisin de Walikale. Rappelons que c'est depuis trois jours que des violents affrontements ont repris opposant l'armée congolaise, soutenue par les groupes armés locaux rebelles du M23 RDF, dans cette zone de Nyanzale, mais aussi dans la partie de Mabenga Rwindi, au nord de Kiwanja. Goma, Bernardin Nyangi, Radio Kapi.
Justement, en rapport avec la crise sécuritaire dans l'est de la RDC, l'Union européenne condamne la dernière offensive du M23. L'organisation européenne souligne l'obligation qu'ont tous les États de cesser de soutenir ces groupes armés. C'est ainsi qu'elle condamne le soutien du Rwanda au M23 et sa présence militaire sur le territoire congolais. Par ailleurs, l'Union européenne exhorte vivement la RDC et tous les acteurs régionaux à mettre fin à tout le soutien qu'ils apportent au FDLR. Cynthia Bachizi.
Ce message de l'Union européenne est contenu dans un communiqué rendu public ce lundi. La source d'inquiétude pour cette organisation est le renforcement des capacités militaires ainsi que l'utilisation de missiles solaires et de drones sophistiqués, ce qui constitue une escalade inquiétante qui aggrave encore la situation, en particulier autour de Sake et de Goma. Par ailleurs, la communauté européenne réaffirme sans équivoque qu'elle condamne les discours de haine et la xénophobie ainsi que les politiques fondée sur l'appartenance ethnique. Comme voie de sortie, l'Union européenne réitère son soutien sans faille au processus de Luanda et de Nairobi. Seule une solution politique et non militaire peut mettre un terme à cette crise. Cela passe par un dialogue inclusif qui doit être engagé entre la RDC et le Rwanda afin de s'attaquer aux causes profondes du conflit, insiste l'organisation. Enfin, elle condamne les attaques récentes ainsi que la désinformation et la mésinformation visant certaines ambassades et la MONUSCO. L'Union européenne souligne ainsi la responsabilité juridique qui incombe à tous les États de protéger la sécurité des citoyens étrangers ainsi que celle du personnel et des biens des missions diplomatiques.
Par ailleurs, 9 personnes ont été tuées dans une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des ZDF la nuit de lundi à hier mardi. Cela s'est passé à Vemba Kinyamuse, un village situé à une dizaine de kilomètres de Beniville. Nous sommes toujours au Nord Kivu. Selon le chef du village de Mavivi Vemba, il s'agit jusque-là d'un bilan provisoire car ce matin encore, la fouille s'est poursuivie pour tenter de retrouver d'éventuels disparus. André Kitenge.
Cette attaque est intervenue la nuit alors que les habitants étaient en plein sommeil dans leur maison, indiquent des sources sur place. Selon le chef du village de Mavivi Vemba, qui parle de bilan provisoire, 9 personnes, dont au moins 4 pygmées, ont été tuées, pour la plupart à l'arme blanche. D'autres personnes ont été enlevées et des maisons incendiées. Gervais Boukoukamakofi, le chef de village Mavivi Vemba, explique.
Le bilan qui est provisoire est de 9 morts. Il y a aussi des pygmées et aussi on nous parle des déplacés et aussi des maisons incendiées dans ce village de Vemba Kinyamuse. Tous ces événements que je viens de vous identifier viennent de pousser toujours le déplacement de la population d'aller vers la ville de Beni, ce qui compte le village est vidé de leurs administrés par rapport à la station qui ne marche pas depuis les mois de janvier à nos jours.
Selon ce notable, toutes les activités socio-économiques sont paralysées dans la région. Les écoles et les centres de santé sont fermés depuis bientôt 2 mois après les dernières attaques survenues en janvier et février dernier dans la région de Mavivi, Ngite, Mamboko, Zuma et Vemba Masulukwede. Il recommande à l'armée de multiplier les patrouilles de combat dans la région pour mettre en déroute ses ennemis de la paix. Tous nos efforts pour avoir la réaction de l'armée sont restés vains. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Du côté du Sankuru, le village de Dima, dans le groupement de Lombela, secteur de Nganduuma, est vidé de toute sa population depuis lundi. C'est suite à la présence depuis le week-end des militaires de la garnison militaire de Lusambo en mission dans le territoire de Lubefu. L'administrateur de territoire signale que ces militaires ont malmené plusieurs ménages depuis leur arrivée samedi à Lubefu. C'était autour de 23 heures pour une mission non connue par les autorités locales. Après le pillage systématique au village de Dima, ces hommes en uniforme ont même arrêté, torturé et ligoté 8 personnes qu'ils ont conduites jusqu'à Lusambo dans des conditions inhumaines, affirment des sources sur place. Esther Ndalafina nous relate les faits.
D'après l'administrateur de territoire de Lubefu, ces militaires ont été dépêchés par l'auditorat militaire de garnison de Lusambo pour un conflit de pouvoir coutumier, plus précisément dans le groupement de Lombela, village Dima à 75 km de Lubefu centre. Ils sont arrivés autour de 23 heures à Lubefu sans exhiber leur ordre de mission auprès des autorités. Quelques minutes plus tard, ils ont fait irruption au domicile du chef Onama, rétabli il y a quelques semaines dans ses droits par un arrêté provincial, où ils ont emporter l'argent et des biens de valeur dont les symboles du pouvoir coutumier de ses chefs traditionnels. Arrivé dimanche à 2h du matin en Dima, plusieurs sources contactées indiquent que ces militaires ont pillé plusieurs biens et torturé les paisibles citoyens. Ils ont emporté des chèvres qu'ils ont vendues à vil prix à Lubefu. Ils ont ramené d'Indima 8 personnes et les ont conduits ligotées jusqu'à Lubefu. Contacté, l'auditeur militaire des garnisons de Lusambo dit avoir dépêché ces militaires pour vérifier les allégations faisant état de l'existence en Dima d'un cachot illégal organisé par un ancien démobilisé. Signalons qu'il y a plusieurs mois qu'un conflit de pouvoir coutumier a opposé le chef en exercice d'Indima à un notable de la place. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Parlons à présent des contentieux des résultats des élections législatives provinciales de Kinshasa. La Cour d'appel de Kinshasa Matete a entamé hier mardi l'instruction de 90 dossiers dont elle a été saisie. À ses audiences publiques d'hier, elle a statué sur 7 dossiers qu'elle a pris en délibéré concernant les communes de Lemba et Kimbanseke. Faisant office de la Cour administrative d'appel, elle examine les requêtes de circonscriptions électorales de Moamba et Changu dans une chambre unique. Jeff Ngoy. Reportage.
La salle des audiences de la cour est archi-comble. Dans une confrontation des pièces à conviction, demandeurs, défendeurs et experts sont à la barre. Sur 7000 voix requises pour le seuil de 3% dans la commune de Kimbanseke, Pati Mubenga a été élu avec 14000 voix sur la liste de l'AFDCA. Il nous déclare sa sérénité.
Je pense que nous avons battu campagne sérieusement. Nous avons commencé à préparer ces élections depuis 2020. Et en 2023, c'est normal qu'on puisse gagner les sièges qu'on a gagnés. Donc je suis tellement serein.
Mais son détracteur Malassin Sapou conteste et demande son invalidation.
Il y a même des témoins qui ont eu des captures lors du vote avec preuve du bulletin de vote des témoins par ces motifs. Plaise à la cour de dire recevable et amplement fondée la présente action.
Réaction de l'avocat du député Chris Mubungu.
Son nom n'a pas été cité parmi les candidats et en conséquence, il ne pouvait pas aussi s'attendre à être proclamé élu dans cette circonscription électorale. Mais nous avons présenté présenter également les résultats parce que nous sommes devant les contentieux des résultats.
L'expert de la CENI.
Au-delà de ce qui n'a pas atteint le seuil, il n'a même pas fait de voix. Il n'a même pas été reconnu à la CENI comme candidat.
Le ministère public demande à la Cour de décréter l'irrécevabilité de cette requête pour vice de forme. L'arrêt de la Cour attendu le 14 mars prochain.
Direction le Sud Kivu, la pluie diluvienne qui s'est abattue sur l'ensemble de la province hier mardi a fait des dégâts matériels et humains dans le territoire de Calais. Deux personnes emportées par les eaux, des maisons d'habitation inondées, des ponts cassés et d'autres infrastructures scolaires endommagées. La population de Calais appelle à une assistance d'urgence. Emmanuel Elamejiwa Wakabedi.
Les principaux dégâts de la pluie de mardi dans le territoire de Calais sont enregistrés à Bunyakiri, à Ombo et à Boulambika. La société civile de Calais avance un bilan provisoire des deux écoliers emportés par les courants d'eau de pluie alors qu'ils tentaient de traverser le pont qui relie le quartier Karumba en groupement de Lubengera à celui de Bisisi dans le groupement voisin de Kalima. Les eaux de la rivière Chinganda ont débordé causant des inondations au centre de Boulambika et sur la majeure partie de Bunyakiri. Des maisons d'habitation et des écoles sont envahies par les eaux de pluie. Environ 7 ponts complètement emportés, notamment le pont de Chekalimba, le pont Luanguba, le pont Erunga et deux ponts Bwengeya qui relient les villages en chefferie de Buloho à plusieurs autres villages dans le groupement de Kalima. Pour l'instant, la communication est coupée entre les habitants des entités qui communiquaient à travers ces ponts. Des familles entières sont sans abri et les besoins sont énormes. Une intervention urgente en faveur des sinistrés est nécessaire. Emmanuel Elamejiwa Wakabedi, Bukavu Radio Okapi.
Restons au sud Kivu, dans la plaine de la Ruzizi, en territoire d'Uvira. Le trafic routier a repris, mais des difficultés persistent au niveau de la rivière Changé, dans la cité de Sangé. Des gros véhicules sont bloqués des deux côtés de la rivière par crainte de rester coincés dans la rivière. Seuls les véhicules légers traversent la rivière sur un pont en bois. Fiston Goma, reportage.
Ce pont en bois a été placé de manière provisoire par des jeunes de Sangé. Cependant, avant de traverser, les bus déchargent toutes les cargaisons et les passagers, puisque ce pont ne supporte pas les poids lourds. Le passager traverse à pied pour reprendre les bus sur l'autre rive. Le Land Cruiser, le minibus, les petites voitures ainsi que les motos sont soumises au paiement d'un montant allant de 1000 à 5000 francs congolais avant de franchir ce pont. L'office des routes de son côté a nivelé les fortes pentes de deux côtés de la rivière pour faciliter le passage de véhicules lourds qui bravent les eaux de la rivière Changé. On peut observer des embouteillages monstres dans la zone. Une situation qui a entraîné l'improvisation du petit commerce, notamment des restaurants, pour servir certains chauffeurs et passagers qui y traînent depuis un certain temps. Même si l'eau de la rivière Changé a constamment baissé, la profondeur est encore grande à certains endroits. Les habitants craignent un nouveau débordement des eaux au regard des nombreuses pluies qui sont attendues dans les jours à venir. D'Ouvira, Fiston Goma Mayaba, la Radio Kapi.
Retour au Nord Kivu, dans le territoire de Beni, le prix du kilogramme de cacao est passé de 1,5 dollars à 4,5 voire 5 dollars dans le secteur des Rwenzori. Selon les experts, cette situation s'explique par la loi de l'offre et de la demande, avec certains grands pays producteurs de cacao en difficulté pour répondre aux besoins des acheteurs. Une aubaine pour les petits producteurs de cacao du secteur de Rwenzori, mais c'est sans compter l'insécurité avec le phénomène Sangabalende, c'est voleurs des produits champêtres dans la région. La société civile locale demande au gouvernement de mettre en place des mécanismes de protection des agriculteurs ainsi que de leurs champs pendant cette période de récolte de cacao. Le point avec Marc Marofimbo.
Selon Meleki Mulala, coordonnateur de la nouvelle société civile du secteur de Rwenzori, c'est depuis le début de la période de récolte de cacao pour cette année que cette augmentation de prix est constatée. Si les agriculteurs regroupés au sein de différentes associations affirment faire de bonnes affaires avec cette hausse de prix, en revanche, ils dénoncent aussi l'insécurité qui les fait surface avec des jeunes bandits armés qui pillent leur production. C'est le phénomène Sangabalende. Les responsables de l'Office national des produits agricoles du Congo ONAPAC, secteur de Beni, dit connaître cette situation. Il en appelle à l'État congolais pour protéger les agriculteurs et les bassins de production pour que le cacao congolais ne soit pas déclaré cacao du sang. Nicodème Moulumba Wakasongo.
C'est surtout pendant la grande campagne, la période des récoltes, qu'il y a des assassinats, des tueries qui se ressentent surtout dans les bassins de production. Et ça, c'est le rôle de l'État congolais qui doit protéger les producteurs. Je pense que le prix actuel permet aux producteurs de se retrouver. C'est à nous maintenant, les gouvernements congolais, de mettre des stratégies pour protéger afin que ces produits ne puissent pas nous causer des problèmes. Qu'un jour, on vient déclarer que le cacao congolais et les cacao du sang.
Nicodème Moulumbo-Kassongo ajoute que cette situation est due aussi aux difficultés de production que connaissent les deux grands pays africains producteurs de cacao, notamment le Cameroun et la Côte d'Ivoire, ce qui pousse les acheteurs de cacao à se tourner vers la République démocratique du Congo. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Actualité internationale.
La Somalie est désormais membre à part entière de la communauté de l'Afrique de l'Est. Le ministre somalien du Commerce et de l'Industrie a présenté le document de ratification du traité d'adhésion au secrétaire général de l'organisation le lundi. C'était lors d'une brève cérémonie au siège de la communauté de l'Afrique de l'Est, CAE, à Arusha, en Tanzanie. Cet acte complète le processus d'admission. Le président américain et son prédécesseur se rapprochent d'un nouveau duel. Lors de la présidentielle de novembre, Donald Trump a remporté la majorité des États républicains en jeu face à sa rivale Nikki Haley lors du Super Super Tuesday, grande journée électorale des primaires américaines organisée mardi.
L'invité.
Il s'agit du général Jean-Daniel Batambiko, secrétaire général de la commission de lutte contre les violences sexuelles au sein des FARDC. Il a séjourné au centre d'instruction militaire de Moura, à Likasi, dans le Haut-Katanga, où un séminaire de formation portant sur les violences sexuelles et les violences basées sur le genre a été organisé la semaine dernière au bénéfice notamment des chefs des unités. Interrogé par Radio Kapi, il indique que le principe de la tolérance zéro est d'application au sein des FARDC pour les auteurs des violences sexuelles. Le général Batambiko est avec Jean Gandou.
Général Jean-Daniel Batabombi, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi organiser un séminaire en faveur des militaires et portant sur les violences sexuelles?
Parce que les violences sexuelles sont proscrites par les statuts du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo et les lois de la République. Au niveau des FARDC, quel que soit le grade et rang, tout auteur qui commet les actes de violence sexuelle est sanctionné sévèrement. Et d'ailleurs, cela a été encore boosté lorsque le commandant suprême de nos forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décrété la politique de tolérance zéro immédiate contre les auteurs de violences sexuelles. Et ces mots d'ordre et d'application au sein de nos forces armées.
Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'enregistrer les cas de violences sexuelles au sein de vos troupes?
Ce qu'il faut retenir est que depuis 1996, il y a eu la guerre de libération, s'il faut le dire comme ça, qui a été accompagnée par les troupes rwandaises, les Ougandais qui étaient dans notre pays. Il y a eu différentes formes de rébellion dans notre pays. À partir de ce moment-là, les irrationnels s'étaient installés. Les violences sexuelles, ce n'est pas une culture congolaise. Là, je dois vous avouer, nous avions vu nos frères aînés qui étaient dans les forces armées. Je peux vous dire que je n'avais jamais assisté à un procès que les militaires sont devant la barre pour des questions de violences sexuelles. Jamais. Mais avec ces irrationnels-là, les gens ont apporté de nouvelles cultures. Et c'est pourquoi on a commencé à enregistrer quelques cas de violences sexuelles. Et là encore, il faut retenir que au cours de la formation de l'armée nationale, il y a eu plusieurs opérations que nous avions connues, de type mixage, et il y avait des difficultés d'identifier qui est qui. Et c'est pourquoi nous avions commencé à connaître les quelques cas de violences sexuelles. Là où les opérations militaires se déroulent, il n'y a jamais eu un risque zéro. Cela veut dire, nous de l'armée régulière, il peut arriver que nous puissions perdre un élément, deux, nous faisons autant de pertes pour l'ennemi, mais malheureusement, il y a de ces groupes armés qui portent irrégulièrement la tenue militaire des FARDC et cela prête confusion dans la qualité des auteurs. Il y a également des problèmes de chiffres. Il y a des partenaires qui se disent de développement, mais qui publient des chiffres qui ne sont pas vérifiés pour faire plaisir je ne sais pas à qui. Et là, ça pose des problèmes. Parce qu'en matière de violences sexuelles, à ce que je sache, pour dire que le cas est avéré, il faut un, identifier l'auteur, de deux, déterminer la nature des faits, et de trois, identifier la victime. Si ces éléments-là ne sont pas réunis, on ne peut pas dire que c'est un dossier de violence sexuelle. Ça peut être vrai ou faux. Et on se retrouve devant cette situation. Certains partenaires avec qui nous travaillons, ils vont vous dire, non, voilà, il y a la confidentialité. Mais vous réclamez la confidentialité et de l'autre côté, vous reprochez aux forces armées de l'impunité.
Est-ce que la loi sur les violences sexuelles est suffisamment vulgarisée au sein de l'armée?
Bien sûr, à partir du moment où je vous dis que il y a un plan d'action, il y a la commission. Dans cette commission, toutes les parties prenantes sont là. Il y a les forces armées avec des structures comme les services d'éducation civique et patriotique des actions sociales. Dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles, on a formé une centaine d'éducateurs civiques et patriotiques qui sont affectés au sein des unités et qui ne font que rappeler régulièrement à leurs congénères la prévention des violences sexuelles. Au-delà de ça, il y a la justice militaire parce que les sanctions de la justice ont également un caractère pédagogique. Lorsque nous avions commencé la mise en œuvre de ce plan d'action, il y avait que des chiffres qui ont été publiés par les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme. Si j'ai une belle mémoire, aujourd'hui, les rapports que nous enregistrons de la part du bureau de la chargée de lutte contre les violences sexuelles pendant la période de conflit, vous allez voir que le cas de violences sexuelles attribuées aux forces armées a été réduit à 98%. Lorsque vous prenez, par exemple, le rapport de 2013 qui renseignait 7000 quelques des cas, et aujourd'hui, le rapport que j'ai lu pour l'année 2023, ça renseigne qu'il y a 104 cas de violences sexuelles attribuées à nos forces armées. Nous ne disons pas que nous minimisons de ces problèmes-là, mais nos dispositifs, nous voulons à ce que les forces armées de la République démocratique du Congo, de par leur mission, ne soient pas citées dans la commission des violences sexuelles, parce que ça n'honore pas les forces armées, ça n'honore pas la République. Et même s'il y a quelques cas que ça ne soit pas une règle, mais ça constitue plutôt des exceptions.
En général, Jean-Daniel Batabombe, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie pour l'invitation.
Le secrétaire général de la commission de lutte contre les violences sexuelles au sein des FARDC répondait aux questions de Jean Gandou Kabongo. Par ici prend fin ce journal coordonné par Élisée Tikotachi Vueta, Martin Sebujangwe, la supervisée, et Pierre Diassino à la mise en onde. Merci de votre attention.